Pour le moment, nous accueillons Jean-Marie au 3921. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Jean-Marie et quel âge avez-vous, pardon ?
Alors, je vous appelle de Rueil-Malmaison et j'ai 40 ans depuis quelques semaines.
Ah bah écoutez, le bel âge, 40 ans.
Oh, magnifique.
Qu'est-ce qui vous amène Jean-Marie ?
Bah écoutez, je vous contacte pour témoigner, pour passer certains messages.
Oui.
Il se trouve que je suis le papa d'un enfant polyhandicapé qui a un syndrome assez rare qui s'appelle IDIC-15, que d'ici deux jours, c'est la journée internationale de l'IDIC-15.
Mmh.
Et donc, je voulais partager notre expérience, la mienne et puis celle d'autres familles avec lesquelles on est en contact à travers l'association que je représente. Pour vous dire, voilà, parents, famille, aidants, accompagnants, ben voilà, vous n'êtes pas seuls. On a des solutions, on a une expérience qui fait qu'avec le recul maintenant, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul face à l'adversité, face aux difficultés qui sont les nôtres. Et je voulais, voilà, tout simplement le partager ouvertement.
Votre quotidien, en fait, ressemble, en tout cas aujourd'hui, vous avez peut-être trouvé un certain rythme, mais votre quotidien, il a ressemblé à quoi à un moment ? Quel impact ça a eu sur votre vie, en fait, d'avoir un enfant qui portait ce handicap ?
Alors, l'impact, il est immédiat. Déjà, avant même d'avoir le diagnostic, je pense qu'il y a pas mal de familles, bon, c'était notre cas aussi, mais il y a, avant d'avoir un nom, avant d'avoir
un diagnostic.
Oui, on s'aperçoit que bon, avec l'enfant, en l'occurrence, grandit pas forcément tout à fait comme les autres. Alors, il se trouve que mon fils Ernest, il a une grande sœur qui s'appelle Rose, qui va très bien. Donc, on a eu matière quelque part à comparer ou en tout cas à voir des différences. Et donc, immédiatement, on s'aperçoit que il demande peut-être une attention différente, que il faut être davantage dans la sollicitation pour avoir des réactions. Et donc tout ça pour vous dire que juste après le diagnostic, il faut mettre pas mal de choses en place. Donc multiplier des rendez-vous avec des spécialistes, essayer de trouver des solutions, se rapprocher d'autres familles ou d'autres associations qui justement ont pu nous permettre de nous repérer,
d'échanger.
Voilà, trouver des informations. Alors, d'échanger, oui. Mais bon, pour nous, l'urgence, je vous parle de ça, c'était il y a 6-7 ans. Hein.
Oui.
Aujourd'hui, il a 8 ans, mais le diagnostic est tombé il avait un an et demi.
Oui.
Il a fallu digérer la nouvelle, ce qui n'était pas forcément évident sur le coup. Puis après, voilà, organiser son quotidien de manière à répondre à ses besoins qui sont, encore aujourd'hui, hein, qui sont complètement différents d'un enfant, ce que je vais qualifier de typique ou de valide.
Oui. Oui. Mais lorsque le diagnostic tombe, je suppose qu'il faut comment digérer tout ça pour éviter de sombrer, parce que ça doit être très compliqué, ça doit être un peu le brouillard dans la tête, non ?
Oui, alors c'est le brouillard. Donc on était deux, hein, avec la maman au moment du diagnostic. Je pense que pendant que l'un digérait difficilement, l'autre devait prendre un petit peu le relais immédiatement, et puis inversement, c'est important d'être épaulé. Alors évidemment, il y a la cellule familiale immédiate, le couple, la cellule familiale, on va dire élargie, hein,
si oui, on prend les
parents, les oncles, les tantes, etc., oui. les enfants, puis après petit à petit avec les amis. Et en fait, ça douche, hein, quand on prend une information comme celle-ci, qui plus est, comme c'est un syndrome rare, comme c'est une maladie génétique rare, il n'y a pas forcément de solution immédiate, il n'y a pas forcément de projection,
avec
en tout cas les spécialistes qu'on a pu connaître à l'époque. On n'a pas forcément la projection de se dire, voilà, d'ici deux ans, voilà ce que votre enfant sera amené à faire, d'ici quatre ans, voilà quel sera son développement, etc. etc. Donc, tout cela, on y a fait face directement. On a appris un peu sur le tas. On a appris, évidemment, en étant conseillé, en étant informé par d'autres relais, pas forcément que le corps médical, puisque il n'est pas forcément au courant de tout ce que c'est, de tout ce que ça implique. Les cas ne sont pas forcément réputés en France. Hein. On dénombre, entre guillemets, assez peu de familles, mais on sait statistiquement que ça touche beaucoup, beaucoup plus d'enfants et de familles que ça.
Oui.
C'est juste, il y a une erreur, je pense, de diagnostic. Il y a des erreurs d'aiguillage. Il y a aussi, je pense, pas mal de familles qui ne se livrent pas, qui restent à porter leurs difficultés elles-mêmes, sans faire face, sans vouloir forcément s'en ouvrir. Et donc, tout ça, ça fait qu'on a eu un parcours assez, assez original, puisque nous, on a décidé assez vite de communiquer dessus, de le faire savoir, de s'entourer. On a réussi à trouver des solutions en termes de prise en charge en Espagne. C'est assez connu que des pays limitrophes comme la Belgique ou comme l'Espagne d'ailleurs offrent des solutions de prise en charge, offrent des thérapies qu'on ne va pas forcément trouver en France, en tout cas pas aisément trouver en France. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à prendre régulièrement la route de Barcelone pour aider notre fils à grandir, à progresser et à se développer.
Comment se fait-il que la Belgique et l'Espagne soient des solutions de plus en plus prises par des parents français? Comment ça se fait qu'on n'avance pas au même rythme, nous, en France, à votre avis?
Écoutez, je ne saurais pas vous dire. Je pense que chacun à son niveau fait le maximum. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Ça, je peux m'en apercevoir et puis en témoigner. Je pense qu'il y a une méconnaissance du syndrome, mais je pense que ce que je vous décris là, c'est valable pour d'autres types de handicap ou d'autres difficultés de santé pour nos enfants. Je pense que voilà, on a un système qui est ce qu'il est, un système de santé qui est ce qu'il est et qui fait pas forcément beaucoup de place à ces syndromes rares ou à ces maladies rares.
Oui.
On sait qu'il y a des pays qui sont naturellement ouverts et portés hein, par des sujets comme le handicap ou l'inclusion, quelle qu'elle soit. Je vous donne un exemple encore. Je reprends l'exemple de Barcelone parce qu'il se trouve qu'on y va souvent ou qu'on y allait souvent. Parce que maintenant, entre-temps, le Covid est passé par là, donc c'est plus compliqué. Mais on s'aperçoit que ce sont des villes qui sont prêtes à accueillir des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap. Pour différents sujets, hein, ne serait-ce que logistique, le regard aussi de la société. Quand on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit en tout cas qu'il y avait des solutions qui, pour nous, étaient plus accessibles, quand bien même il fallait passer les frontières et faire des voyages de 2 ou 3 semaines à chaque fois.
Avec du recul, comme ça, Jean-Marie, quels ont été les relais, les premiers relais les plus importants, en fait? Parce que j'ai rencontré pas mal de parents qui ont évoqué le fait de surtout ne pas rester seul
Oui.
et tout de suite de se rapprocher d'autres parents pour pouvoir bénéficier justement de leurs connaissances et des erreurs à ne pas faire, d'aller un peu chercher sur Internet, enfin, vous voyez, et plutôt être dans le vrai, le vécu par d'autres. Est-ce que
Oui.
c'est ce que vous avez ressenti, vous?
Nous, en fait, on est. Je prends mon cas, moi je suis très pragmatique. C'est-à-dire que une fois qu'on avait identifié une thérapie qui pouvait fonctionner, et encore j'en ai eu vent par du bouche à oreille un peu miraculeux, puisque c'est un copain qui m'en a parlé, grosse coïncidence. On est allé à Barcelone, on a discuté longuement avec les thérapeutes, avec le directeur du centre, qui nous a dit, écoute, voilà, ton fils, il a des besoins, tu te rends compte. Deux choses l'une, soit tu souhaites les assumer et d'ici quelques mois, quelques années, enfin, tu pourras plus être en mesure de le faire parce que ça a un coût. Alors quand je parle de thérapies qui ont lieu à l'étranger, il faut bien se dire aussi que voilà, il y a un coût derrière et que c'est pas remboursé et
Oui,
que c'est
oui,
pas
oui.
voilà. Donc il me dit voilà, si tu veux revenir, il va peut-être falloir t'appuyer autour de toi. Donc peut-être de la cellule familiale, peut-être de la cellule amicale, mais peut-être penser à autre chose. As-tu pensé à créer une association, faire parler du syndrome, te faire aider, épauler pour les ressources financières que ça va
Allez vite,
impliquer?
oui.
Ouais, voilà. Et
On va,
donc c'est ce qu'on a
pardonnez-moi,
fait.
on va faire une pause et on va continuer à parler justement de tout ce que vous pouvez créer autour de cet élan hein, là pour rééquilibrer la famille parce que c'est vous parents, ce sont les frères et sœurs, comme vous l'avez évoqué aussi les grands-parents, les oncles. On va continuer à en parler. On fait une petite pause, Jean-Marie. On se retrouve tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h31 et vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Jean-Marie, vous me disiez donc que ce médecin vous a demandé si vous aviez pensé à créer une association. Je suppose que c'était quelque chose jusqu'à maintenant qui ne vous avait pas spécialement traversé la tête.
Ah non, pas du tout. Et puis, pour être tout à fait transparent, moi, le sujet du handicap ou de la maladie rare, j'en étais assez loin.
Oui.
C'était pas du tout un sujet que je connaissais ou que je maîtrisais. Et puis, bon, j'étais très content d'ailleurs de pas y être trop confronté moi-même. Et donc, j'ai découvert avec mon fils. Et donc, effectivement, le directeur du centre nous a gentiment conseillé donc de créer une structure nous permettant quelque part de solliciter l'aide. De gens qu'on connaissait, mais aussi de gens qu'on ne connaissait pas. C'est un peu le principe aussi de devenir une association avec une image publique. Alors, c'est pas évident parce que c'est tout un cheminement, hein. On n'est pas du tout dans la logique de demander un coup de pouce à des proches. On est dans une logique plutôt de ce que j'appelle entre guillemets un coming out, où il faut apprendre à se livrer, il faut apprendre à partager ses difficultés, il faut apprendre à se mettre un peu à nu pour expliquer une situation qui, pour nous, nous paraissait essentielle et cruciale, hein, parce qu'il s'agit quand même de la santé de notre enfant.
Oui.
Et donc, on a effectivement monté une association, il y a 5 ans de ça, hein, il y a presque 5 ans de ça, justement pour ouvrir les yeux quelque part du grand public sur les difficultés liées à la maladie rare, et notamment le syndrome Ehlers-Danlos 15, hein, qui est celui que porte mon fils, et puis évidemment collecter les ressources nécessaires pour financer les thérapies. Donc, au départ, c'était vraiment lui qui était le centre de notre attention. Et il se trouve que, c'est un peu l'histoire que je voulais vous partager, c'est qu'avec le temps, avec les rencontres, avec des amis qui spontanément se proposent, qui nous ont sollicités, avec les mises en contact qu'on a pu avoir, on a ouvert l'association à d'autres familles. On a pu prendre, je pense, une ampleur un peu plus importante. C'est bien qu'aujourd'hui, depuis un an maintenant, on est reconnu d'intérêt général,
oui.
Et ça nous permet d'avoir vraiment un positionnement un peu différent en tant qu'asso, une visibilité un peu plus forte, et puis de pouvoir surtout soutenir davantage de parents qui, comme nous, cherchent des solutions pour leurs enfants.
Et combien aujourd'hui de membres y a-t-il à l'association ?
Alors, dans l'asso, pour la faire fonctionner, on est plus d'une dizaine, si on prend vraiment le côté membre. Après, des adhérents, on a une centaine d'adhérents, on a plus d'une centaine de bénévoles. Et si on s'arrête vraiment aux familles qu'on a identifiées, parce que je vous parle aussi de la difficulté aussi pour chacun, de poser un diagnostic et deux, de vouloir le partager, c'est plus d'une trentaine de familles aujourd'hui qu'on peut accompagner avec des enfants qui ont un syndrome comme Ernest.
D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous arrivez... Pour Ernest, à faire quoi ? À l'emmener en voyage ? Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ?
Eh ben écoutez, donc pour Ernest et pour d'autres.
Hein, oui. Pour Ernest et pour d'autres, bien évidemment.
Oui, on arrive à financer toute partie de ces thérapies. Alors certaines ont lieu en France, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller uniquement à Barcelone. En fonction des enfants, le syndrome est plus ou moins fort, et donc du coup les besoins sont plus ou moins, importants. Donc on a, il y a des enfants qui sont assez autonomes, hein, qui parlent, qui sont scolarisés. On en a d'autres où c'est pas du tout le cas. Bon, moi je reprends l'exemple d'Ernest que je connais le mieux. Il n'est pas capable de suivre une scolarité classique, hein. Mais heureusement on a des enfants autour de nous qui sont qui suivent, on va dire, une scolarité la plus classique possible, même si une des difficultés partagées par les parents, c'est justement les faire rentrer dans un schéma scolaire typique, et ça, j'en suis témoin tous les jours, parce qu'on échange beaucoup avec les mamans et avec les papas qui sont concernés. Oui, on peut arriver à l'emmener en voyage. Lui, en l'occurrence, il est pris en charge dans une structure pas très loin de la maison, donc un centre de deux jours, hein, où il arrive le matin, il repart l'après-midi, donc il y a une prise en charge qui est faite sur place, avec des équipes vraiment d'éducatrices spécialisées.
Ce qui est très important pour vous, pour que vous puissiez continuer à travailler, je suppose, et garder un équilibre.
Complètement, oui, c'est important. Alors pour nous en tant que parents, pour nous organiser, mais même pour lui, parce qu'il a des besoins spécifiques. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai malheureusement des cas autour de nous d'enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont pris en charge entre guillemets à travers une garde classique, ce qui est pas du tout adapté à ceux dont ils ont besoin. Voilà, les cas sont assez différents, et c'est aussi pour ça que nous, en tant qu'asso, on essaye de se mobiliser, parce qu'on cherche des solutions. Aujourd'hui, on arrive à faire certaines choses, et c'est très bien, mais on est en train de chercher davantage à nous développer et à pouvoir proposer encore plus d'accompagnement pour ces familles qui en ont besoin, même si elles ne le disent pas, mais on le sait, elles en ont besoin.
Bon, très bien. Bah, écoutez, Jean-Marie, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je suppose que ça aura donné de l'espoir à certains parents, puisque vous n'êtes pas le premier parent d'enfants porteurs de handicap, d'autisme, comme d'autres handicaps qui intervient sur cette antenne. Mais à chaque fois, on voit qu'il y a une solidarité, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour tous ces enfants. Et ça donne de l'espoir quand même, parce que on s'aperçoit quand même en France que c'est pas encore une situation idéale hein, pour que ces enfants bénéficient de soins, mais de lieux d'accueil aussi où ils puissent être avec d'autres enfants, s'épanouir. Vous voyez, en fait, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop d'enfants qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bénéficient d'un accueil chez une nounou ou pour d'autres. Hein, on a eu des témoignages comme ça sur la Libre Antenne de mamans qui ne trouvaient même pas d'accueil hein, pour des enfants autistes, et c'était vraiment problématique. Le dernier en date étant celui d'une maman dont le petit est allé jusqu'en petite section et arrivé au CP, et bien, il n'a pas été accepté, et ce petit, en fait, il passait devant la cour de l'école et il s'accrochait au barreau. Il ne comprenait pas pourquoi il voyait ses copains à l'école et que lui, il n'avait pas le droit d'aller dans cette école. Donc je sais que c'est une problématique chez beaucoup de parents encore, une problématique importante et un combat important. Donc bien évidemment, votre initiative, elle porte toujours vers plus de haut la possibilité qu'il y ait de plus en plus de choses de faites pour ces enfants. Merci pour ça, Jean-Marie.
Ben Olivier, écoutez, merci. Est-ce que je peux juste conclure sur
une
petite seconde ?
Allez-y.
Merci. Donc c'est un message que j'adresse aux parents hein, qui nous auraient écouté ce soir, c'est de leur dire que voilà, chacun a ses envies, ses possibilités, on comprend, mais voilà, moi je pense qu'en parler, ça réconforte, ça soulage. Ensuite, ça permet de construire autour de cela, et je pense que c'est une fabuleuse aventure humaine que nous on vit depuis maintenant plusieurs années, si bien qu'on a réussi à monter un festival solidaire qui justement est là pour mettre un coup de projecteur sur le handicap, sur tout ce dont on vient de parler. D'ailleurs, on cherche des groupes rock. Alors, il me semble que Black Maria, si vous remettez à jouer, on cherche des artistes pour l'automne prochain. Donc, on
c'est
sera ravis
prévu,
de vous avoir.
C'est
sur scène.
Pas prévu.
Bah, n'hésitez pas, on sera ravis de vous faire une petite place.
Avec plaisir.
Et voilà, juste vous dire que l'association Les Vraies d'Ernest, on est super soutenus, les familles sont très actives. C'est d'ailleurs grâce à la maman de Philippe qui s'appelle Eva qu'on peut se parler aujourd'hui. Donc merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés. Merci aussi à Julia qui m'a pris en ligne un peu plus tôt pour préparer la discussion. Et puis merci à vous de votre écoute et de votre relais.
Je vous en prie. Et merci à vous pour votre énergie. On en a grandement besoin dans cette France qui devrait avancer un peu plus concernant cette question. Je vous embrasse et puis courage et puis embrassez le petit pour nous. D'accord ?
Merci.
Au revoir Jean-Marie.
Au revoir.